Silcast présente la revue de presse, thème du jour découverte, avec Victor et Sacha. Bonne écoute.
Le fameux effet lombard, oui, c'est une étude d'Aarhus publiée dans le Journal of Experimental Biology. Ils ont collé des enregistreurs à ventouses sur 23 individus pendant 3 ans, plus de 1400 vocalisations analysées. Le bruit ambiant à Gibraltar tourne autour de 132 décibels à cause des 60 000 bateaux qui passent par an. Tu sais ce qui m'a frappé ce matin en parcourant Nautilus? L'idée que les baleines pilotes du détroit de Gibraltar sont littéralement en train de crier pour se faire entendre, et qu'elles n'y arrivent plus. C'est ça le point qui me semble nouveau. On savait depuis longtemps que le bruit anthropique gênait les cétacés. Ce qu'apporte l'étude, c'est la preuve qu'on a atteint un plafond physique. Une baleine ne peut pas crier plus fort, point. Et il reste 250 individus dans cette sous-population, classée en danger critique. 60 000, c'est-à-dire un cargo toutes les 9 minutes en moyenne. Et la conclusion des chercheurs est assez glaçante. Les baleines compensent en haussant le ton, mais seulement partiellement, et surtout dans les hautes fréquences. Or, pour communiquer à distance, quand elles remontent de plongée à 600 mètres pour retrouver leur groupe, elles ont besoin des basses fréquences. Et là, physiologiquement, elles sont déjà au taquet. Sur ce dossier précis, oui, il y a deux options évidentes. Soit on impose des couloirs plus lents et plus silencieux, ce qui ralentit marginalement le commerce, mais sauve une espèce. Soit on continue comme aujourd'hui et on accepte que cette population disparaisse dans quelques décennies. Le calcul est assez clair. La perte économique d'un ralentissement à Gibraltar est marginale à l'échelle du commerce maritime mondial. Et le bénéfice écologique est massif et irréversible. Pour le plus grand nombre, ralentir, c'est l'option raisonnable. Et donc la solution n'est pas du côté des baleines, elle est du côté du trafic. Réguler la vitesse des navires, ça réduit déjà significativement le bruit. C'est une décision politique très simple à prendre, qui ne coûte presque rien, comparée à l'extinction d'une population. Et tant qu'on est sur Nautilus, ils ont aussi sorti l'étude de Toulouse sur l'ADN des pangolins. Plus de 700 échantillons séquencés, en croisant les collections de musées et les saisies douanières, pour cartographier les zones de braconnage. Le sud-ouest de la Birmanie et le Cameroun ressortent comme des points chauds. « Vas-y, je l'ai lu en diagonale, dis-moi. » On change complètement de registre, mais l'autre papier que je voulais évoquer, c'est celui de Kanta, sur la foudre. Et là, c'est presque un renversement épistémologique. Et après la Tsaïs Merik, et New Wadithrusis, c'est le Aotalurgis, Plutobre Tiglastrophique. Pendant 2 siècles, l'image dominante, c'était la foudre. C'est une grosse étincelle électrique. Tu accumules des charges, le champ atteint 3 millions de vols par mètre, l'air s'ionise, ça claque. Sauf qu'on a un problème. Dans les nuages, on ne mesure jamais des champs aussi élevés. On est souvent à 1/10 de ce qu'il faudrait. Et donc la question reste, qu'est-ce qui amorce réellement l'éclair? Donc l'orage, ce n'est plus seulement un phénomène de météo classique, c'est un petit accélérateur de particules au-dessus de nos têtes. Ce que je trouve frappant, c'est l'effet de mode des reconversions. Ce sont des physiciens du cosmos qui débarquent avec leurs instruments faits pour les supernovas et ils résolvent un problème terrestre vieux de 50 ans. C'est un bon rappel que les frontières disciplinaires sont souvent ce qui bloque les avancées. Exactement. Joseph Dwyer, qui faisait du satellite solaire avant de bifurquer vers les orages en Floride, a détecté des rayons X émis par les éclairs, des bouffées de rayons gamma venant des nuages, et plus récemment des éclairs qui voyagent dans des directions inattendues. L'hypothèse, c'est que des rayons cosmiques de très haute énergie déclenchent des cascades de particules qui amorcent la décharge. Sur ce point, je suis d'accord, même si je nuancerai. Ce n'est pas la recherche fondamentale en elle-même qui produit ces résultats. C'est le fait qu'on tolère que des chercheurs changent de sujet et redéploient des compétences. C'est de la fluidité institutionnelle plus que du financement aveugle. Et politiquement, je trouve ça intéressant parce que ça illustre la valeur de la recherche fondamentale non finalisée. Personne ne finançait Dwyer pour résoudre la foudre. Il avait des outils conçus pour autre chose. Quand on entend les discours sur la recherche utile et orientée application, on a l'exemple inverse sous les yeux. Mexico City, dans le Guardian. Le satellite NISAR, qui est une mission conjointe NASA-ISRO, a publié ses premières cartes de subsidence. Certains quartiers, dont l'aéroport principal, s'enfoncent de plus de 2 cm par mois, 24 cm par an. Acceptable comme nuance. Dernier sujet rapide? Et l'intérêt dépasse Mexico. La même technologie va servir pour les volcans, les glissements de terrain, les déformations sismiques, l'humidité des sols agricoles. C'est un changement d'échelle dans notre capacité à monitorer la planète en temps quasi réel. Ce n'est pas une découverte au sens où on documente l'enfoncement de Mexico depuis 1925. La cause est connue, la ville est construite sur un ancien lac et on pompe la nappe phréatique depuis un siècle. Ce qui est nouveau, c'est la résolution. NISAR voit semaine par semaine à travers les nuages et la végétation. Avec une question politique qui va vite se poser, qui a accès aux données et avec quelle granularité? Parce que voir un quartier s'effondrer en direct, c'est aussi voir la responsabilité des autorités en direct. À Mexico, ça veut dire affronter la question de la gestion de l'eau, qui est explosive socialement. Trois manières de mesurer ce qu'on ne voyait pas avant, et trois fois la même morale au fond. Les outils nouveaux changent moins les phénomènes que notre obligation d'agir face à eux. On boucle là-dessus. Trois articles, trois échelles. La baleine qui crie dans le détroit, l'éclair qui cache de la physique des particules et une mégapole qu'on regarde s'enfoncer depuis l'orbite. Bien vu, on se retrouve demain.